Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h05, on est dans le Super Moscato Show, on est sur RMC comme tous les jours, vous le savez, de 15h à 18h, on est avec Denis Charvet, nous sommes avec Adrien Gouin, puisque Pierrot est en, pas en maladie, mais en révision,
contrôle technique,
tout à fait, et nous accueillons le prince d'Osiris, le prince de la Canebière, le seigneur du Prado. Éric Dimeco.
Salut les poulets. Donc c'est quoi? C'est vérification du pot d'échappement, chez Pierrot.
La calamine, comme dans la bamboulette.
Alors, il existe en France ce qu'on appelle le secret médical et on le respectera.
Oui.
Parce que nous respectons Pierre Dorian.
Voilà. Oui, on aura la vidéo quand même pour voir.
Et depuis qu'il a vu Boston lui a vérifié le pot, il a dit pas de stress. Chez Poët.
C'est
pas son garage dès lundi prochain.
Comment ça va, Éric? Dans quel état d'esprit tu es? Parce qu'il y a de l'actualité dans ton club, tu dois quitter l'OM.
Écoute, j'ai appris ça ce matin sur mon vélo. Je me suis remis au vélo d'ailleurs.
Attends, si tu te fais
vélo d'ailleurs, ça fait mal au pot d'échappement de faire du vélo.
Tu comment, là, on va débattre à 17h où va l'OM, mais c'est quoi ton sentiment là? T'es dégoûté? T'es inquiet?
Moi je suis déçu. Moi j'avais dit que j'aurais aimé refaire une autre saison dans d'autres conditions.
On en débat.
Écoute, on prend acte et on va faire confiance au président.
On en débat à 17h.
C'est le chapeau, quoi.
Où va l'Olympique de Marseille? Rendez-vous à 17h, 32-16, supporters marseillais, on vous attend. Dans 30 minutes, Vincent, 16h30, toutes les infos du jour. Franck Heize, l'entraîneur du Racing Club de Lens, vient de s'exprimer sur son avenir et il s'exprimait clairement, Vincent. Rendez-vous à 16h30. Ah, méfie-toi, Eric, on sait jamais. J'ai le Kikadi, oui, il y a le Kikadi.
La porte est ouverte, il a dit, comme un Pyrrhon.
Dans ma besace, j'ai le cadeau du Kikadi du jour. Alors, le Kikadi d'aujourd'hui sera présenté par Morgane Maury. Ah. Oui. Puisque Fleu aujourd'hui a des difficultés d'élocution.
Ah bon, qu'est-ce qu'il a à lui? Je ne sais pas. Alors là, il y a un problème, parce que s'il y en a un qui se fait rectifier le pot, pas d'accord,
il est Fleu.
Il y a un problème. Voilà.
Toute cette semaine, dans le Kikadi, nous vous offrons votre appareil photo numérique étanche WP8000 de la marque Agfa Photo, qui va solo jusqu'à 3 mètres. C'est l'appareil photo idéal pour vos futures vacances. Pour emporter votre appareil photo Agfa Photo, vous appelez le 3216 touche 4 ou vous envoyez Kikadi par SMS au 73216. Kikadi par SMS au 7-32-16. L'événement du Super Moscato Show, c'est la semaine prochaine. C'est l'événement de la saison, Vincent. La tournée des 15 ans du Super Moscato Show. Ouais. Pour faire partie du public, vous envoyez un mail à public@rmc.fr. public@rmc.fr. Je vous redonne les lieux, les villes. Lundi, émission spéciale 15 ans à Paris, sur la péniche, le bateau Mademoiselle Mouche.
Magnifique vide.
Mardi, nous serons de nouveau chez Eric Dimeco à Marseille. Novotel Marseille Vieux-Port. Mercredi à Lyon.
Sur le vélo.
Mercredi à Lyon, brasserie Le République. Jeudi à Bayonne.
Oh, Bayonne.
Le restaurant, le Victor Hugo.
La foire du jambon, la peine à Bayona.
Et vendredi, nous serons en Espagne, Vincent, à San Sebastian. En cœur de la fan zone pour les demi-finales du championnat de France. De top 14, on sera au cœur des demi-finales de top 14. Avant de parler de rugby, avant le Stade Français Paris Racing 92, le direct Roland Garros avec Eric Salio.
Avec la numéro mondiale Gaziantep qui est sur le central depuis 32 minutes, c'est pas du tout le cavalier seul envisagé, puisqu'il y a trois partout entre la Polonaise et une jeune américaine, Claire Liu, 102e mondiale, qui sort des qualifs. Donc attention, on va surveiller ce match de près. Sinner Altmaier, il y a 2-7-1 pour l'Italien et trois partout dans le 4e set. Je rappelle la défaite de Diane Paris. Et puis, puisque je sais que Denis et Vincent sont habitués au Night Session, et bien demain ils verront Carlos Alcaraz. Sympa, ça.
Moi, j'y
contre Denis Shapovalov.
On y sera.
Toujours pas de femme, hein. Rédaction, ça peut peut-être valoir un débat.
On fera un débat dans le Super Moscato Show. On accueille pour le Midi Olympique le patron du Midi Olympique, Emmanuel Massicard. Salut, Manu.
À la réflexe. Salut,
les amis. Salut, comment allez-vous?
Comment il va?
Ça va bien. Ça va bien. Je viens d'avoir Flo, il va bien. Il sera là tout à l'heure.
Tout de suite, le rugby. Samedi, Vincent, après-demain, c'est l'histoire du rugby à Paris qui se joue.
C'est en 1892, le 20 mars, au Bois de Boulogne, que le Racing enlève son premier bouclier.
Avant de sortir du terrain, il reste 2-3 minutes, et puis il y a les mouettes qui sont venues envahir le stade.
En battant le Stade Français 4-3.
Quand je dis des milliers de mouettes sont venues sur le stade, et comme remercier les héros qui venaient de gagner.
Le rugby Made in Racing prend forme, mais reste toujours une histoire d'amour et d'amitié.
Mais enfin, le rugby, par essence, c'est le partage avant tout.
Je préfère les choix dans le partage, c'est moins partagé.
Moscato, il va te régler le problème.
Vincent, il était mort de rire sur Denis et c'est
ça tombe derrière.
Non, j'ai failli m'effondrer. Il s'est tombé sur lui à la fin. C'est comme ça. On adore ça, Vincent. C'est le mois de juin. Il fait beau et c'est parti pour les phases finales de Top 14. Dimanche, 21h, Loup UBB. Samedi, le premier barrage pour se qualifier en demi à Saint-Sébastien et défier le Stade Toulousain. Le derby, 14h. Stade Français Paris, Racing 92. Deux clubs aux trajectoires différentes cette saison. Deux clubs qui changent tout la saison prochaine. Qui est le plus à perdre? Qui est le plus fort dans ce contexte? C'est le Stade Français de Paris qui reçoit chez lui à Jean-Bouin. On vous attend au 32-16. Arnaud Valadon est avec nous. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Arnaud, tu reviens du Plessis Robinson, du centre d'entraînement du Racing 92. Comment se présentent les Racing Men à Jean-Bouin? Une dernière aventure, peut-être belle, avant la révolution la saison prochaine.
Oui, parce que dans un mois jour pour jour, Laurent Travers deviendra président du directoire du Racing 92 à la place de Jackie Lorenzetti. Stuart Lancaster débarquera en tant que directeur du rugby, le technicien anglais. Forcément, on a posé la question tout à l'heure à Laurent Travers, au club quand même depuis 2013, sur le terrain, si ce match, qui pouvait être son dernier, hein, puisque ce sont les phases finales, était particulier pour lui.
Pas du tout. Alors, je préfère le dire, mais pas du tout. Parce que c'est pas Laurent Travers, hein, c'est le Racing 92. Moi, j'aurai l'occasion encore d'être avec le Racing, de pouvoir vivre d'autres aventures avec le Racing. Donc, restons focus sur l'équipe et le reste, je m'en balance.
Voilà la réponse de l'ancien talonneur. Concentration sur le derby. Au Racing, on se dit, et ça ce sont les joueurs qui nous l'ont confié tout à l'heure, qu'il y a trois matchs à aller chercher pour être champion, parce que c'est la finalité. Même si ne pas être en demi-finale, cela serait une première pour le Racing depuis 2019, c'est d'avoir de ne pas faire de demi-finale du tout, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Pour Gaël Ficou, la seule réussite, c'est d'aller au bout.
Après des phases finales, déjà pour commencer, c'est différent. C'est à part, c'est pas le bilan. Il y a des équipes qui jouent très bien et qui s'effondrent en quart de finale ou en demi-finale, donc ça veut rien dire.
Oui,
c'est que le champion qui fait une saison réalisée et les autres, c'est une saison ratée. Si un grand club comme Toulouse ou La Rochelle ne vient pas à gagner le titre, ce sera en tout cas un championnat raté parce qu'ils cherchent à gagner le titre comme nous. Donc forcément, si on échoue ce week-end, ce sera une saison ratée pour nous parce que l'objectif, c'est quand même, quand tu joues dans un grand club comme le Racing, c'est de ramener des titres.
Arnaud, le Stade Français Paris est en barrage en face. Quand on se souvient du début de saison, c'était pas évident.
Hein. Et tout a basculé peut-être ce 8 octobre quand ils battent largement l'USAP. C'est la sixième journée de Top 14. À ce moment-là, le Stade Français est à 3 victoires, 3 défaites. Et Quesada déclare avoir vécu la pire semaine de sa carrière d'entraîneur parce que la presse a révélé quelques jours avant que Laurent Labitte et Karim Ghezal allaient lui succéder après la Coupe du Monde. Et finalement, c'était peut-être le début de la dynamique puisque derrière, c'est 8 victoires en 10 matchs pour le Stade Français Paris. À mi-championnat, ils sont dauphins des Toulousains. Il y a eu un petit coup de moins bien au printemps, mais les Parisiens arrivent néanmoins à sécuriser l'avantage du terrain avec cette quatrième place. C'est le meilleur classement en saison régulière depuis 2015 et le titre de champion. D'ailleurs, depuis ce titre, c'est seulement la deuxième apparition du club en phase finale.
Merci Arnaud. Vincent, tu connais bien ces deux équipes, tu connais les coachs, tu connais les joueurs. Qui est le plus à perdre? Qui est le plus fort? Dis-nous tout sur le barrage.
C'est curieux parce que c'est un peu... Le Racing derrière a une ligne de trois quarts qui est quand même assez chatoyeuse, je dirais, qui a des gaz, qui a des mecs de
chatoyeuse.
Je vais sortir la chatoyeuse.
C'est bien.
Verbe chatoie, tu chatoies du verbe irrégulier, bien sûr. Donc. Le paquet d'avant du Stade Français, très costaud. Ils ont été surprenants cette année. D'ailleurs, ils ont bien voyagé à cause de ça. Parce que après, sur les lignes derrière, l'équilibre ne se fait pas. Tu le sens. Donc, pour moi, il y aura un avantage sur du terrain. C'est très, très équilibré. Très équilibré.
Tu nous dis que ça se joue devant le rugby. Ça se joue devant.
Ouais, ça se joue devant avec un très léger avantage pour le Stade Français qui reçoit notamment à Jean-Bouin. Même si le fait de recevoir lors d'un derby intercité, c'est pas vraiment un avantage énorme, mais quand même un petit peu. Avec ce paquet d'avant, comme le rugby commence devant, je dirais, le Stade Français avec un léger avantage, 51-45.
Ça, c'est ton pronostic sur le match, la question du débat, qui a le plus à perdre? Vu l'évolution des deux clubs,
je pense que le Racing a beaucoup à perdre. Beaucoup à perdre. Parce que c'est un changement, c'est d'autres moyens que le. Enfin, c'est d'autres moyens, non, c'est pareil. Au niveau financier,
alors,
c'est un peu pareil.
Plus à perdre.
Mais au niveau des joueurs, je trouve que quand même au Racing, t'as des joueurs quand même de renom, t'as beaucoup d'internationaux, t'as des gars comme Ficou qui sont quand même les tauliers en équipe de France. C'est quand même quand tu regardes homme par homme les hommes qui constituent l'équipe du Racing, t'es quand même impressionné. Et ils ont fait une saison, somme toute, ils se qualifient, donc tout va bien. Mais à un certain moment, ils c'était plus près de la 14e place que du début quand même. Donc je pense que celui qui a le plus à perdre, c'est le Racing. Ça fait un moment qu'ils cherchent. Eux, ils étaient en possession de gagner. Ils ont des équipes à gagner le titre. Le Stade Français en début de saison, tu te dis pas qu'il va gagner le. Tu dis pas qu'il joue la qualif. Déjà, tu sais pas s'ils vont jouer la qualif. Le Stade Français en début de saison. Tu te dis qu'ils s'en sortent. Essayera pas mal. Ils sont qualifiés. Donc très bien. Ils reçoivent en plus à la maison. C'est-à-dire, c'est un meilleur classement que le Racing. Donc ils ont des chances d'aller en demi-finale avec une équipe qui est quand même pas. Je veux te dire, quand tu les vois jouer, parfois c'est efficace, parfois non, mais ça ne fait pas, tu tombes pas sur le cul quand tu vois jouer le Stade Français actuellement. Le Racing, avec le nombre d'internationaux qu'ils ont, tu te demandes comment ils ont bataillé toute l'année.
Voilà, Denis Charvet, qui a le plus à perdre sur ce barrage?
Écoute, je sais pas, moi je pense que ils ont tous les deux à perdre, dans la mesure où ils ont quand même des infrastructures extraordinaires, ils ont le même budget.
C'est le même budget des deux clubs. Après, il y a quand même beaucoup de blagues dans votre sport là, non?
Eric, fallait pas le dire quand c'est fini ça.
Ben ça le dit justement, il y a des noms plus du côté du Racing,
plus renflant.
Mais ça veut rien dire. Le problème, le budget, c'est les mêmes, sont les mêmes. Puis moi, j'ai envie de répondre, de te dire, mais c'est quoi les objectifs des clubs? Les objectifs des clubs, c'est être champion de France avec les budgets que tu as, avec l'argent.
Mais pas le Stade Français.
Oui, non, si, pareil. Après que quand tu perds Ficou, Danti, parce qu'ils étaient quand même chez toi, ils étaient au Stade Français.
Mais voilà, tes ambitions sont revues à la baisse.
Elles sont revues à la baisse, mais contre toi. Enfin, malgré toi, je veux dire, c'est toi qui les as perdus. Donc, je veux dire, au tout début, le Stade Français de l'ère Wild, je parle du président, ben c'est être champion de France quand même. Le minimum syndical. Aujourd'hui, tu peux pas dire que le Racing est moins à gagner, a plus à gagner, à perdre que le Stade Français.
Je parle depuis le début de saison. En début de saison. Je pense pas que l'ambition, ou alors tu peux toujours raconter le saucisse, pas dire cette année cette année qu'on va être champion de France. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas l'être, mais sincèrement, c'est quand même.
Après, juste pour conclure, je pense sincèrement par rapport à ce que l'engagement que des deux présidents, après le développement des deux clubs, quand tu vois les clubs, on est allé à Vincent, c'est même le football, je ne sais pas s'ils ont mieux.
Vous êtes allé au Racing?
Au Racing, on est allé au Stade Français.
C'est fou, c'est
le Stade Français, au Stade Jean-Moyen, c'est extraordinaire.
Vous êtes bien tenu quand vous êtes dans le club.
Non, mais je veux dire par là, on peut pas satisfaire de se dire que si un barrage, c'est non, un barrage il faut gagner. Donc ils ont autant à perdre l'un et l'autre.
Qui a le plus à perdre, Eric Dimeco?
Je suis passé à la salle de muscu. Eric, je suis passé à la salle de muscu au Racing. L'entraîneur il m'avait pas reconnu, il a voulu me recruter. Il est amené les poings claqués, comme tout ça.
Je suis sûr que tu pousses encore.
Oui, je pousse. Pousse ma flemme. Oui,
pas comme le petit Villiers. Éric Dimeco.
Moi j'ai quand même l'impression, alors même un budget, sauf que le Racing, je rêve ou c'est les joueurs du Stade Français qui partent au Racing quand ils ont beaucoup d'ambition? C'est pas comme ça que ça se passe, le truc.
C'est un peu caricatural, mais tu n'es pas loin de la vérité.
Je caricature un peu, c'est-à-dire que même avec le même budget, j'ai quand même l'impression que le Racing, alors je veux pas dire plus d'ambition, parce que non, quand tu as ces clubs-là, tu as l'ambition, mais j'ai l'impression qu'ils veulent aller l'enlever, tu vois. C'est eux qui, et donc pour moi, c'est le Racing qui a quand même plus de plus à perdre. J'ai quand même l'impression que c'est le Racing. Que le Racing, pour moi, dans la hiérarchie, si on doit faire une hiérarchie et si on doit faire en début de saison les équipes susceptibles de gagner le championnat, je pense qu'on les met pas loin du haut.
Tu peux jouer le titre avec l'équipe que t'as.
Voilà, avec l'équipe qu'ils ont. Oui, non, mais après ça c'est un autre problème.
Sur le papier,
c'est en début de saison par exemple. T'aurais dit les trois favoris. Pour le titre, tu mets Toulouse, tu mets sûrement La Rochelle, et peut-être que les troisièmes, c'est le Racing. Oui. On est d'accord ou je dis grosse bêtise?
Non, c'est bon.
Ben voilà. Donc, et le Stade Français, je vais te dire, le Stade Français, moi, je vais vous faire une confidence, Vincent, début de saison, il m'a dit, ça vaut pas épicher le cidre, ils seront pas dans les six. C'est bien ce que tu m'as dit.
Ouais, je te remercie. Il m'a dit la même chose. Arrêtez, il a dit, ton Lombard est pas là.
Oups, c'est la merde. Oups, il fallait pas le dire.
Eric, tu viens de tuer tout le travail que nous avions entrepris pour se réconcilier. avec Gonzalo Quesada et moi, Eric vient de nous flinguer. Manu Massicard, Midi Olympique.
Mais en plus, ils le savent que vous les détestez quand même, il le dit.
Manu, qui a le plus à perdre, Manu?
Trombeau du Pinard, 20 000 euros.
Je suis pas d'accord avec vous, moi. Je pense que c'est le Stade français qui a le plus à perdre. Ah. Parce qu'on juge par rapport à quoi? On juge par rapport au parcours actuel et par rapport à la saison qui a été réalisée. Le Racing n'a pas fait une belle saison, la preuve avec son élimination européenne. Et s'ils sortent en barrage finalement, bah ça sera à l'image de leur saison. Là aujourd'hui, la dynamique cette saison, vous l'avez assez dit dans le Moscato Show, elle est positive pour le Stade français. Donc à ce moment-là, la part d'échec, elle serait sans doute plus lourde au moment de sur ce barrage pour le Stade français à mon avis. Ça veut pas dire que
sur la saison, ça se joue à un point, non?
Ah ouais, mais le Stade français fait une bien meilleure que le bien meilleure saison dynamique,
en fait. Oui, bien sûr. Paris beaucoup plus régulier sur la saison que le Racing qui avait.
Oui, alors attends, je prends les codes là.
Oui, mais si tu veux,
ils ont gagné un match de plus.
Non, le Stade français est troisième toute la saison.
Les comptes, oui, Eric, mais dans la façon de structurer.
Régulier, Eric, si tu veux.
Régulier, beaucoup plus régulier. Sur voilà. Eric, il aime bien faire les comptes.
Point d'irrégularité, Eric.
Il a raison. Jacques nous appelle au 32-16 pour parler de ce dernier. Décisif samedi. Salut Jacques.
Oui, bonjour.
Comment va Jacques?
Supporter du Racing ou Stade français?
Ça va bien.
Alors, dis-nous.
Ouais. Supporter de quelle équipe?
Ah ben, merci en tout cas, supporter du Stade français depuis toujours. Et je ne suis pas totalement d'accord avec ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que je pense que c'est plutôt le Racing qui a à perdre. Même si cette année, ils ont été un peu moins bons que le Stade français. Mais l'ambition du Racing, je pense, depuis quelques années, c'est d'avaler tout cru le Stade. Vous vous souvenez quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Lorenzetti a essayé d'acheter et de faire disparaître
la fusion,
tout en le mélangeant quelque part avec le Racing, mais il n'y aurait plus de Stade français. Mmh. Donc pour le Stade français, c'est presque un point d'honneur à battre le Racing, très objectivement et en toute amitié évidemment, hein, c'est pas la guerre, mais disons que ça nous ferait assez plaisir de montrer à l'actuel président plus pour très longtemps que bah, le Stade français il est bien là et qu'il n'y avait aucune raison d'être absorbé par le voisin transilien. Voilà. Donc bon, ça c'est une première chose, et la deuxième chose, je pense qu'on mérite un peu plus justement parce qu'on a été bon et qu'on est troisième voire deuxième à un moment depuis des mois et des mois. On est dans une logique absolue.
Jacques régulier, mais moyennant.
Pas flamboyant, on va dire.
Pas flamboyant. Après, efficace. Et ce qu'on cherche au niveau, c'est d'être efficace. Et c'est vrai que devant, il y a une belle machine au Stade français. Mais derrière, des fois,
dans l'équipe ce matin, le Stade français, c'est l'équipe sur toute la saison qui a gagné le plus de mêlées.
Devant Toulouse, devant La Rochelle. Tu te rends compte, ils se sont permis le luxe de faire jouer un gamin à gauche, pilier gauche, de 18 ans. Ce qui est très rare. Ce qui est très rare à ce niveau de faire jouer un homme qui a 18 ans. C'est pas possible, tu vois.
Quelle est la une du Midi Olympique, Manu Massicard, demain, vendredi matin?
Elle est consacrée à la Pro D2, au match de l'Access Match. Non, bien sûr que non, monsieur Moscato. Objectif top 14, comme un objectif lune pour Grenoble et Perpignan, le gros match du week-end en marge de ces barrages qui se joueront samedi et dimanche. Donc avec ce match à couteau tiré entre Perpignan et Grenoble.
Ça se joue où?
À Grenoble.
Toujours chez l'équipe de Pro D2.
Je vous redonne le programme, ton programme rugby du samedi, Vincent, et du dimanche. C'est énorme. Samedi 14h sur RMC, tout est sur RMC. Hein. Stade français Paris Racing 92, samedi 14h. Samedi 21h, le barrage dont vient parler Manu, Grenoble USAP à 21h. Et dimanche, lendemain 21h, Lyon Union Bordeaux Bègles, le deuxième barrage dont on débattra demain.
Et attends, t'as oublié un truc quand même important. Demi-finale du championnat de France féminin, qui sera diffusé samedi après-midi sur Rugbyzone et que vous pourrez suivre avec, je crois que c'est Bordeaux-Toulouse et Blagnac-Romagna.
Eh bien, Vincent, sera en rendez-vous.
Vincent, ne rate pas ça.
On en parle lundi.
Relâche pas, c'est pas intéressant du tout.
Allez, vas-y. On a parlé d'un Midi Olympique que Gaillac est monté.
La Gaillac qui est monté à la Fédéralune, j'espère qu'il nous a parlé. Reportage, j'espère, quand même.
On a fait la une.
Avec ce tout-part, Gaillacois qui est très fort.
Tu l'as vu, le Colombo, quand même, de Manu. Ah non, c'est vachement intéressant, le rugby féminin, mais t'inquiète pas, la première page, il n'y a pas marqué demi-finale, le rugby féminin, t'inquiète pas.
Merci.
J'en ai vu, c'est un type comme toi, Manu, mais là.
Merci, Manu, on se retrouve la semaine prochaine.
On tourne sur le bassin d'Arcachon.
Manu, le direct, Roland Garros, Eric Salio.
C'est Salio.
Gaziantep qui mène 5 jeux à 4 dans sa première manche face à l'Américaine. Elle va servir pour boucler cette première manche, mais vous comprenez, avec le score, c'est compliqué. Sinner Altmaier, c'est un super match. 3h38 de combat, 2-7-1 pour l'Italien, mais Altmaier et l'Italien sont à égalité 4 partout dans le 4e set.
Merci Eric. This is the
Votre rendez-vous tennis avec Prime, diffuseur officiel de Roland Garros.
Dans tout de suite, Vincent, toutes les infos du jour. Le yes. Moscazap. Alors attention, Franck Haise, très intéressant, s'est exprimé il y a quelques minutes sur son avenir. Tu sais qu'il avait émis quelques réserves ce week-end, le deuxième du championnat de France de Ligue 1. Que va-t-il dire ?
Il n'y a plus de réserves.
Réponse tout de suite, dingue. Franck Haise.
16h24, le super Moscato Show. On revient tout de suite.
RMC. 15h-18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h30. On est dans le super Moscato Show. On y revient au Mastic. On est avec Denis Charvet de Flavoir Foncor. Eric Dimeco, bien entendu, est avec nous. Ça t'a porté chance, c'est 30 ans. Tu dors dehors, dans la foulée, et Brest à la maison qui vous fout le fessé. Super, super semaine.
Ah ouais, super semaine.
Adrien.
Pourtant, elle a bien commencé.
Oui, mais dans son jubilé, il a vu le grand naze, il a vu Jojo l'Astico,
le grec, le russe, le gitan.
Et de vous voir, les gars, on paralyse la mâchoire. Merci Eric encore. Merci pour ce jubilé que tu as organisé. Le jubilé d'Imeco, tous les copains d'Eric.
On s'en foutait de lui, Jean-Claude Camus, mais là c'est quand même du petit Jean-Claude Camus.
Et si vous avez loupé cette émission exceptionnelle vendredi à Marseille, vous la podcastez, il y a notamment une interview de Fabien Barthez qui ne parle jamais. Eh bien, elle a parlé au Moscato Show grâce à
Eric. Ouais, et l'interview de Basile Boli, quoi.
Oh, c'était très émouvant.
Tu sais qu'il y a des trucs à dire, hein, Basile.
Ah oui, ah ouais, et puis il est fiable. Hein.
Alors lui, fiable, mon pauvre. Là, il te dit une heure. Je crois qu'il n'est jamais arrivé en retard.
Qu'est-ce qu'il fait, Basile, dans la vie?
Il a marqué un but. Il y a 30 ans, il a marqué un but.
Tu me disais
qu'il y a 30 ans, il a marqué un but.
Il travaille à l'OM. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à l'OM? Explique-moi. Non, pas longtemps.
Ça, c'est quand les inspecteurs du travail arrivent, il fait semblant de s'occuper. Tu sais, moi, j'ai 30 000 par mois, Rimoine.
Denis et Vincent avaient promis à Basile qu'il l'allumerait.
Tous les jours. Parce qu'il nous a mis une belle carotte, bien entendu. Il n'est pas venu à l'émission.
À 17h, Eric, on est obligé de parler, de débattre de l'Olympique de Marseille. Tu dors, s'en va. Où va l'Olympique de Marseille? Quel est le projet de l'OM? Quel est le projet de Pablo Longoria? On en parle avec vous au 32-16. Mais d'abord, toutes les infos du jour, toute l'actu.
RMC, le Mosca
Zap.
Alors Vincent, tu vas décrypter une intervention d'un entraîneur, d'un manager général. Tu vas nous dire ce qu'il y a entre les mots. Dernière journée de Ligue 1 ce week-end, samedi 21h. Il y avait beaucoup de conférences de presse dans beaucoup de clubs, avec beaucoup de prises de parole attendues d'entraîneurs, de joueurs concernant leur avenir. Ça y est, c'est le début de la saison du Mercato. Lens se déplace à Auxerre ce week-end. Franck Haise avait émis quelques doutes le week-end dernier sur son avenir à Lens. Jean Baumel a posé la question directement à Franck Haise aujourd'hui en conférence de presse. Monsieur Haise, qu'en est-il de votre avenir? Est-ce que vous serez à Lens la saison prochaine?
Moi, je défends l'ambition collective. J'ai aussi dit que, d'une part, j'étais heureux dans mon poste, que je suis sous contrat jusqu'en 2027. Faut pas l'oublier non plus. J'ai pas dit que je partais, quoi, parce que tout le monde part dans tous les sens. J'ai juste dit la vérité. Il y a des sollicitations. Bah, vous me posez la question, je réponds. Sinon, je peux faire de la langue de bois tellement facilement. Mais j'ai pas fait de la langue de bois. J'ai juste dit la réalité. Mais je répète, l'ambition collective du RC Lens, c'est ça qui m'importe le plus.
Ce qui lui importe le plus, c'est l'ambition collective. Mais je suis sollicité. Comment on analyse ça?
Comme beaucoup de
d'entraîneurs. Ceci dit, il n'avait pas besoin de nous le dire. On se doutait qu'avec la saison qui venait de faire, bien sûr qu'il a la cote.
Mais surtout que tu fais une belle saison, tu es dans un club qui, financièrement, ne casse pas non plus trois patins de canard. Tu te dis, l'entraîneur, on peut vite le choper. Les gros clubs te disent, on peut vite le choper. Donc c'est normal qu'il soit sollicité. Tu vois, il n'est pas ficelé comme si tu es entraîneur à Chelsea ou au PSG ou à Marseille.
Il va rester, selon toi? Quand tu entends ça, il reste?
Bah oui, je sais pas. Attention là. Oh là 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 là, attention là.
Imagine.
Mais voilà, pareil, imagine qu'il y en a un qui triple le salaire. Comment on fait?
Et puis imagine que il apprend que Seko Fofana s'en va, qu'Openda s'en va. Tu te dis on va où là? Et que en même temps, il y a une sollicitation très intéressante, et sportivement et financièrement.
Voilà, bon, mais tu t'attends pas, tout simplement.
Il y a Florent Ghisolfi, dont il était très proche, qui était le directeur sportif de Lens, qui est parti à Nice. Qui a beaucoup de moyens. Nice, quand ils ont voulu chercher Galtier à Lille il y a quelques années, ça s'est fait rapidement.
Mais après, il y a une loi du marché. Après, si tu fais une très belle saison, tu perds les clubs qui ont des moyens limités, ils peuvent perdre 2-3 joueurs. C'est le cas de Lens, on l'a souvent dit. Et là, l'entraîneur, c'est plus la même limonade. Mais il se dit l'an prochain, je vais me faire casser la gueule et on me propose 3 fois mon salaire. Je m'en vais.
Voilà, l'entraîneur, là, je ne vois pas les dirigeants de Lens se séparer d'un technicien comme lui.
Bien sûr.
Humainement, il est super, il fait l'unanimité. Trouver l'autre mec pour aller jouer la Champions League, je sais pas moi, ça me paraît fou.
Il a un contrat jusqu'en 2027, c'est ça le ficelle.
25 ou 27. 25.
n'y a aucune raison qu'il parte.
Et il est manager général de Lens, hein, c'est-à-dire qu'il est censé voilà, tout gérer.
Normalement,
hein.
Normalement, il devrait rester, ouais. Mais bon, tu sais jamais.
C'est la logique, mais attention, dans ce milieu-là,
attention. C'est la logique, si elle était respectée,
tu dois rester à l'OM. On zappe Lens, direction le Paris Saint-Germain qui reçoit Clermont ce week-end. Samedi, Christophe Galtier était en conférence de presse. Il a d'abord précisé qu'il n'y aura pas de célébration du titre en raison de la situation dans laquelle se trouve, la situation de santé dans laquelle se trouve Sergio Rico, gardien de but du Paris Saint-Germain, toujours dans un état critique dans un hôpital en Espagne suite à un accident de cheval.
Alors, expliquons, qu'est-ce qu'il a eu exactement? Il est tombé d'un cheval?
Il n'y a pas de précision plus que ça. Il y a plusieurs.
Non, mais il était à cheval, il y a une carriole qui lui a coupé la route, il est tombé.
Pour l'instant, l'hôpital, la famille de Sergio Rico n'ont pas communiqué sur les circonstances exactes. Il est dans un état stable, mais critique. Donc, évidemment, Galtier a précisé toutes nos pensées envers lui, vers sa famille. Il n'y aura pas de célébration du titre. Il y aura une cérémonie. Il y aura une cérémonie sobre dédiée à Sergio Rico pour le soutenir. Galtier a accepté de répondre aux autres questions des journalistes. Il a confirmé que Messi quitte le Paris Saint-Germain. Voilà, il ne sera plus joueur du Paris Saint-Germain. Donc demain, samedi, c'est le dernier match de Lionel Messi en Ligue 1. Il aura passé deux saisons.
D'accord.
Question de Fabrice Hawkins. Qu'est-ce que vous retiendrez, vous, Christophe Galtier, du passage de Messi au Paris Saint-Germain en Ligue 1?
Que j'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est un grand privilège. Demain, c'est son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli la meilleure des façons. Il a toujours été au service de l'équipe, toujours au service du jeu, de l'animation, d'être le passeur, le finisseur. Et que, je le répète encore une fois, pour l'entraîneur que je suis, ça a été un grand privilège, non pas de l'entraîner, de l'accompagner tout au long de la saison.
Il faut aussi y penser à ça. Il a entraîné le meilleur joueur de l'histoire, Galtier.
Non, mais
parfois, on est pris dans l'actualité, on fait des débats, etc.
C'est
il a savouré.
Très bien de la part de Galtier de souligner que lui, je pense que dans sa début, quand il a commencé c'est l'entraînement il y a quelques années, il pensait peut-être pas entraîner Messi. Et que par son talent, parce qu'il a eu du talent, Galtier, il en a toujours, mais il a réussi à être champion de France. Et après, il a entraîné le PSG, il a entraîné Messi. C'est quelque chose, si tu entraînes Mohamed Ali à la boxe, c'est sur ton CV, quand tu mets que tu as entraîné Mohamed Ali, quand tu as entraîné Ronaldo, Messi ou Mbappé, ben c'est quand même, et Neymar en plus, ben c'est quand même sur le CV, ça fait, tu passes pas pour un cancre.
Denis.
Il me disait en micro, il me disait que Galtier c'était une pompe, mais bon, maintenant.
Vincent non,
pas du tout.
Le mec se balance.
Non, mais il est admiratif, tout le monde de l'est, mais c'est normal en même temps. C'est vrai que nous, on a été exigeants, moi le premier, parfois avec Messi, alors que Messi, c'est vrai qu'il a quand même des stats aujourd'hui, on se rend pas compte, 15 buts, c'est ça, 15 passes décisives.
Ça.
Voilà, et puis là, il reste Messi, même s'il a pas le même coffre, même s'il
oui,
n'a
mais...
pas. Voilà, après, nous, on est trop exigeants, parce que on va le regretter, tout simplement.
Ouais, mais ce sera quand même une déception.
Oui, oui, bien sûr. Oui.
Voilà, oui, oui, parce passage, que j'ai souvenir d'il y a deux ans quand il arrive,
il fait rêver tout le monde.
Voilà, du côté de Paris, c'est le grand rêve. Et à la limite que sportivement il soit un peu en dessous, bon, bah, c'est dans l'ordre des choses, c'est l'histoire de la vie. Et tout le monde pouvait y penser, sauf que on n'a jamais l'impression qu'il soit arrivé à Paris, quoi.
Il a eu du mal voilà, à s'adapter.
Mais la première année, on a compris que il se demandait ce qu'il faisait là. Et la deuxième année, il pensait qu'il y a une chose, c'était à faire la Coupe du Monde. Donc,
puis,
tu veux, je suis pas sûr que son passage, bien sûr que tu récupères le meilleur joueur du monde dans l'histoire de ton club, ça fait quelque chose.
On a relativisé quand même. Il sort d'une histoire d'amour, en fait.
Avec Barcelone.
Non mais Barcelone. Oui. Donc tu le récupères Lambeau.
Ah, personne n'a minimisé ça, au contraire.
Et par rapport à la ville, si rappelle-toi, les mecs qui disaient ouais non mais s'il n'est pas content, parce qu'il y a un jour il avait dit que Pierrot le premier ça roulait mal et que ben, le temps n'était pas le même. Alors tout le monde disait il ne savait pas qu'ici c'est machin, tu vois, de suite le venin. et donc mais oui, mais bien entendu, t'as passé 15 ans à Barcelone. Et puis Barcelone, c'est une ville incroyable en Espagne. Au bord de la mer, je sais pas si tu viens à Cannes et puis tu te retrouves à Bobigny. J'adore Bobigny, mais quand même, c'est pas la même.
Mais rappelez-vous quand même, parce que même quand il était encore au Barça, on les faisait ces débats-là. Est-ce que il peut jouer ailleurs? Est-ce qu'un jour il jouera ailleurs? Est-ce que c'est pas l'homme d'un seul club? Est-ce qu'il faut pas aller ailleurs pour montrer que c'est vraiment le meilleur du monde? Parce que justement, on savait que l'attachement était fort avec le Barça, puisqu'il est arrivé à 13 ans. Et si tu veux, son passage au PSG, qui est quand même une grosse machine, hein, attention, tu vois, ça répond presque au débat qu'on faisait à l'époque.
Mmh. Oui, oui,
oui, parce que tout meilleur joueur du monde de qu'il est, sorti de son cocon, eh ben, c'est plus pareil.
Et il n'a jamais pu s'expatrier. En
fait. À 13 ans, il est arrivé au Barça.
Oui.
Donc il a passé 20 ans au Barça. Oui. Il est venu à 32, 33 ans.
Et en plus, le Barça était plus que club pour lui. C'est une famille, puisqu'il avait des. Ils l'ont fait grandir.
Il a rencontré son épouse là-bas. Il a fait des enfants là-bas.
Il habitait à côté, là, au bord de mer. Puis la température et tout. Non, mais c'est vrai, quand on a.
Par l'acclimatation,
à côté de Barcelone, je pense qu'il habitait vers Sitges, quelque chose comme ça. Et donc c'est magnifique, quoi. Tu vois, je veux te dire, c'est une ville, Barcelone.
Qu'est-ce que
c'est,
toi?
Tu avais ta maison à côté ou
qu'est-ce que c'est, toi?
T'es où, toi, exactement?
Toi, t'es de Narbonne, mais t'es aussi de Barcelone. Donc, toi, tu sais tout.
Je suis citoyen du monde,
tout simplement. Je vous embête.
Voilà. Eric, ton ami Christophe Galtier a dit clairement qu'il fera le point sur son avenir la semaine prochaine, sur la saison prochaine
c'est
avec
lui qui va le faire ou les autres.
Il va y avoir des discussion, Denis, entre la direction et Christophe Galtier. On zappe le foot pour une info rugby. L'info rugby du jour, alors Denis, Sam Whitelock, néo-zélandais,
énorme,
légende des Blacks, après la Coupe du Monde de rugby, jouera à la section paloise en top 14 la saison prochaine. Ouais. Je te fais son CV, 34 ans, deuxième ligne, 143 sélections avec les Blacks, double champion du monde. Il va jouer la Coupe du Monde qui arrive en France et après, il sera joueur de la section paloise.
Il rejoint son frère
Luc, troisième ligne, qui joue à Pau depuis 2019. Ça a dû jouer dans les négociations.
Forcément, oui, bien sûr.
Le fait qu'il arrive.
Après, attention, 34 ans.
T'as des doutes ou pas, Denis?
Oui, parce que le mec, il est.
Lui,
c'est engagé. C'est un joueur extraordinaire. Lui, c'est un second.
Quel état il arrive, là?
C'est un second de vie.
Je veux voir.
C'est un second de vie moderne. Whitelock, il courait partout. Il fait 115-120 mètres.
Ouais, mais dans la brutalité, il a fait l'été
dans le combat.
Il fait mal, quoi. Il fait mal.
À 34 ans, tu sais pas quand tu récupères. Parce que championnat, attention, championnat, c'est pas un championnat japonais, là.
Il sortira du champion du monde.
C'est top 14.
Non, moi, je comprends pas. Moi, je te le dis sincèrement. Moi, je suis lui. Je prends deux plaques au Japon.
Bon, alors
je suis sûr qu'il y a un million et demi
au Japon. C'est aussi familial, il veut aussi peut-être jouer avec son frère.
Tu vois, la famille du top 14.
Non, mais, Adrien, il y a une filiale quand même néo-zélandaise à Pau qui est très forte.
Oui, vous souvenez-vous, Colin Slade.
Il y a Smith, Conrad Smith,
Simon Manix à l'époque.
Le pilier qui a
Conrad.
Calloward. Mais qu'est-ce qu'il raconte?
Mais lui, le pied gauche, tout à fait John Calloward.
Calloward. Calloward. Calloward.
Calloward.
Yannick Sinner contre Daniel Altmaier, l'allemand. Sinner qui vient de gâcher, entre guillemets, deux balles de match. Donc c'est loin d'être fait. 2-7-1 quand même pour Sinner. 7-6-6, 7-6-1 et 5 partout dans le quatrième. Et puis Świątek, elle va bientôt achever sa besogne. 6-4-2-0 pour la polonaise face à Claire Liu. Derrière, ce sera la française Océane Dodin face à Ange Jabeur.
Dans un instant, dans le Super Moscato Show.
J'ai la room qui me dit à 34 ans, 154 sections, le pro va se faire déboîter dans le Super
Moscato Show.
Je pense que c'est la réalité.
C'est Corti qui l'ont dit. Notre ami Corti dit à Vincent qu'il a un rendez-vous chez l'orthophoniste.
Alors, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on est en pleine semaine, un jeudi à 16h42, alors qu'ils sont en pleine journée de travail. Olivier Roumat et Philippe Corti prennent le temps de nous écouter.
Oui. Là, ils arrêtent.
C'est super.
Comme ils travaillent à la chaîne, ils arrêtent la chaîne exprès pour nous répondre.
Ils sont là pour
Simplement, c'est les deux qui font partie de la famille des mecs qui ont un fusil dans la voiture. Dès qu'ils voient du travail à moins de 100 mètres, ils sortent le fusil, ils tirent dessus. Voilà.
Dans un instant, dans le Super Moscato Show, c'est le journal moyen avec Julien Richard. Alors restez bien là, il y a un énorme vent radiophonique, d'un moment de frisson, de gêne radiophonique. Ça s'est passé hier dans l'after sur RMC.
Moi, c'est vrai qu'il est 16h43, on est dans le Super Moscato Show, on revient.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient au mastic de le Super Moscato Show, 16h47, c'est le journal moyen de Julien Richard.
Et à la une du journal moyen du Super Moscato Show, il fait chaud à Paris, mais pourtant, frisson. Oh, vous entendez ce blizzard? Oh. Mais oui, vent glacial sur les studios d'RMC, frisson garanti. Mais comment a-t-on pu mettre autant de talent dans Fred Hermel, journaliste, commentateur, écrivain?
Bah oui.
Et nouvelle corde à son arc à découvrir dans le journal moyen. Préparez-vous, la première question du Kikadi by Fleu. On nous promet, on nous annonce un kick à parler, je cite, chelou. C'est dire. Vous écoutez RMC, c'est le 1446e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen. RMC, l'After Live.
Nicolas Jamin.
Allez, on commence par un petit tour chez nos copains de l'After Live. Hier soir, grosse soirée de direct évidemment avec la finale de la Ligue Europa. Séville, AS Rome, Jeannot Rességuier au commentaire, coach Courbis avec Nicolas Jamin. Et comme Séville joue, évidemment, on ne peut pas se passer de...
Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Espagnola.
Fred Hermel, évidemment. Entre autres, homme aux multiples talents, donc journaliste, commentateur, écrivain. Il vient de publier d'ailleurs son tout premier roman, donc plein de talents dans ce Fred Hermel, mais pas tous les talents tout de même.
Aïe. Et espérant que l'arbitre ne va pas se tromper, qu'il va mettre un carton jaune.
Mais quand c'est ton joueur, tu dis il aurait pu faire la simulation. On va devoir travailler ça l'entrée de main.
C'est surtout qu'un truc comme ça, maintenant.
C'est pas coach, c'est un instant du Béarn, ça. C'est pas
du tout. Oui, moi je suis pas très bon d'imitation.
C'est Jacques Cheminade, c'est autre
chose.
Cheminade, quoi.
Oh, il y en a un truc, j'avais pas entendu son nom.
Moi je suis plus sûr de refaire du Fernandel.
Ouais, mais non, c'est pas Nolesque. Oui, c'est pas trop mal.
C'est pas Roland Bobis.
Non. C'est Roland qui a chopé la grippe.
Je trouve pas que c'est ridicule.
After Live, toujours donc mi-temps de cette finale à Séville AS Rome. Et à la mi-temps sur RMC, on parie sur ce qui va se passer sur la seconde période, deuxième mi-temps. Et on a un Nico Jamin très inspiré, je dirais même qu'il s'auto-inspire.
Oui. Roma qui mène 1-0 à la mi-temps grâce à un but de Paolo La Roya Dybala, le joyau argentin qui a sévi ce soir. Alors, La Roya qui a sévi ce soir. Fredo, tu relèves pas le jeu de mots?
Oui.
Il relève pas, je crois qu'il ne l'a pas. Ouais. Pas de panique. Évidemment, on va s'en sortir, on va tous comprendre.
Oui. Séville, comme le club qui affronte l'équipe qui affronte Dybala, non, c'est même pas validé.
Ouais.
On parie sur la deuxième période.
La Roya, ouais.
Roya qui
s'est. On parie sur la deuxième période, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, j'ai froid. Vite, on parie.
Mais non, Fredo.
J'ai pas compris la blague en fait.
Il a sévi. Dybala a sévi ce soir.
Séville.
Oh non.
Ah, c'est trop... Tu viens de sévir, c'est un peu trop élaboré pour pas un mec qui bloque une situation.
Séville.
Il a sévi ce soir, mon sang. C'est un bon. Johan Bredov, les coachs de ce match.
1-32, je te sauve.
Incroyable.
1-32, la victoire de la Roma 3.
Bah, c'est
noyé en direct.
Noyé, mais c'est pas grave.
Il finira pas aux deux
ânes.
Juste pour le plaisir, je vous ai isolé le ouais de Fred Hermel quand il ne capte absolument rien à ce que dit Nico.
Ouais.
Ah, c'est
un grognon.
Ouais.
Avec un blanc de 2 secondes.
Ouais.
Ce genre de moment, par exemple, ça n'arriverait jamais ici, dans le Moscato Show.
Jamais.
Ça aurait pu arriver, par exemple, hier. Vincent, quand tu accueillerais un auditeur.
Aïe.
Un auditeur qui s'appellerait Armand.
Ah oui, d'accord. Le Armand, le bidon.
Cette puce de Lukaku, c'est plus pour ça.
C'est marié, Armand?
J'ai ma conjointe, ouais.
T'as pas peur qu'elle ait un Armand?
J'ai une compagne, ouais.
Mais tu sais que.
Tu as la peur avec ça, non, de Vincent. Vas-y, on repart de zéro.
Allez, n'aie pas honte.
Vas-y, rejoue-la.
Il n'y a pas d'autre. Non, je viens d'avoir une petite fille en plus.
Non, c'est vrai, Armand, quand même, quand t'appelles comme ça, est-ce que t'as pas peur que ta femme est un Armand?
Comment?
Il veut faire une dernière qui est pourrie, Armand. On l'écoute pas. Armand, c'est une vanne de Vincent. Dernière fois. Dernière tentative.
C'est une blague à la Stephen. Toi, tu as une fiancée, tu vis avec, tu as une femme. Non, Armand?
Oui.
Bah, est-ce que tu n'as pas peur qu'un jour elle ait un Armand?
Oh là là.
C'est très bon.
Je crois qu'elle vient de trop loin. Surtout, c'est comme Séville.
Oui,
c'est ouais. Quand même tiré par les cheveux.
Il t'a pas aidé, Armand.
Non, il m'a pas aidé.
Il veut plus jouer le jeu.
Oh là là, il fait.
Mais bon.
Mais bon, les résultats.
Écoute-moi, Julien, ce qui est possible, c'est que de pas grand-chose, on en rigole.
On en rigole le lendemain, ça qui est bien.
Il y a pire ailleurs, ou il y a mieux. Enfin, il y a Laurent Luya.
Ah oui,
France Télé. Laurent, il a de longues journées sur sa terrasse à Roland-Garros.
Au perchoir, là.
Pas des masses de suspense. En plus, hier sur Alcaraz, Taro Daniel, le joueur japonais. Alors, il faut bien s'occuper un peu.
Et puis le japonais, bon, on le savait, hein, évidemment, Fabien et Justine, qui n'a pas Taro Daniel, tous les atouts dans sa manche pour.
40-30.
Ah, c'est un contre-heure.
Bien noté, bien noté.
C'est pas passé inaperçu.
Il en fait tellement qu'elles passent inaperçues alors qu'elles sont excellentes.
Merci, Patrick. Merci.
Excellente. Oui, c'est un joueur de cartes, bien sûr. Merci, France Télévisions. Il est là.
Hey,
16h54.
Hey,
Fleu toi-même.
Fleu, c'est Frédéric Pouillet, notre producteur, qui, en l'absence de Pierrot aujourd'hui, présente le Kikadi. C'est la première.
C'est la première
question du Kikadi du jour. Frédéric, c'est parti.
On va faire un Kika parler. Il me faut le prénom et le nom. C'est un Kika parler dans les tribunes de Roland Garros. On écoute.
Mais je pense qu'on a juste des passages pendant le match où c'est un peu trop léger. C'est sûr qu'on a fait aussi beaucoup d'erreurs, mais ça c'est on en parlera entre nous. Sinon on ensemble. Voilà, on rentre à la maison et maintenant il faut défendre chez nous.
Brendan Chardonnay.
Vincent Moscato.
C'est pas du foot.
Nicolas Carvalho.
Est-ce que c'est
Lucas Carvalho?
C'est du rugby.
C'est du tennis.
Wembanyama. On prononce
Wembanyama.
C'est pas lui, mais c'est le bon sport.
Ah, Tony Parker.
Tony Parker.
Nicolas Batum.
Nando De Colo.
Non,
c'est comment il s'appelle le
grand Joaquin Ludon. Boris Dio.
Un entraîneur.
Collet. Vincent Collet.
Un entraîneur de club.
Ah, TJ Parker.
TJ Parker.
Et bim.
Et voilà.
C'est Tony Parker.
Comme quoi, il y a une chose qui va bien à Marseille aujourd'hui, c'est Eric qui répond au Kikadi.
Oui.
Il a répondu, Eric.
1-0 pour Eric. TJ Parker, le frère de Tony Parker qui entraîne l'ASVEL.
Au moins, il ne sera pas fini.
En basket. Voilà. Rapidement, très rapidement, Eric Salio, le direct à Roland-Garros, les matchs en cours.
Avec Iga Świątek qui se rapproche de la qualification, la polonaise 6-4, 4-0 contre Claire Yu. Et puis je continue sur ce match insensé sur le Linglen, Sinner Altmaier. Troisième tie-break à venir dans le quatrième set. Donc pour l'instant, il y a 2-7-1 pour l'Italien. Il a déjà raté deux balles de match.
Igor Tudor quitte l'Olympique de Marseille. Où va l'OM? On vous attend au 32-16, le débat avec Vincent et Eric Dimeco. Tout de suite.
Il est 16h55, le Super Moscato Show. On revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.